Pedro, c'est...
Tu sais qu'on t'entend ouvrir les bières, Nathalie. Ouais. Hein.
Pedro, c'est une vieille histoire. Et puis, c'est vrai, c'est extrêmement émouvant d'être là tous ensemble pour parler de lui, parce que généralement, c'est vrai que tout ce qu'on est dans le studio, on se voit pas très souvent, mais on a toujours beaucoup de plaisir à se voir. Et généralement, quand on se voyait, il était là. Et c'est vrai qu'on a tous plein d'histoires avec Pedro, plein de souvenirs, plein de conversations assez folles, plein de circonstances et de moments assez fous. Voilà. Moi, je l'avais rencontré il y a 6-7 ans via les réseaux sociaux, et puis pour la première fois à Bain de Blues, je crois, physiquement. Puis on s'était découvert plein d'atomes crochus, des gens d'été lorrains tous les deux, et puis on avait quelques goûts musicaux communs. Voilà. J'ai plein de souvenirs avec lui, plein de choses avouables, racontables, pas racontables.
Oui, on n'est pas là forcément pour avouer tout ce qui n'est pas avouable.
Extrêmement attachant.
Effectivement, Pedro qui nous a quittés bien trop tôt de façon accidentelle, rappelons-le, début janvier 2018. À l'âge de 50 ans, ce n'est pas un âge pour partir, 50 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui n'en as pas encore 40.
On est d'accord.
Jean-Christophe, tu as ta guitare.
Ouais.
Tu as un micro devant ta guitare, tu as un micro devant ta bouche. Ouais. Tu vas forcément nous faire quelque chose.
Est-ce que tu entends de toute façon satisfait?
Moi, j'entends tout.
Ça va? Alors, en hommage à Pedro, je voudrais jouer un morceau qu'on jouait assez souvent tous les deux. C'est-à-dire qu'il est arrivé une ou deux fois qu'il nous rejoigne sur scène avec les Witch Doctors. Et puis, il aimait bien chanter ce morceau-là, Pedro. Je pense qu'il l'a déjà chanté avec certains d'entre vous aussi.
Tout près du micro, surtout.
Un morceau de Patrick Verbeek qu'on aimait bien tous les deux. Voilà.
Je me sens si bien, j'ai le voodoo dans la peau. Je me sens si bien, j'ai le voodoo dans la peau. À New Orleans, au quartier français, j'ai trouvé mon mojo. J'ai la corne de cerf et les racines de Wuchiku. Oh, j'ai l'os de chat noir et le masque de loup-garou. Oh, j'ai le gris-gris en moi. Le blues, c'est pas toujours ce que tu crois. Si t'as mal, le blues te fait du bien.
Si t'as mal, le blues te fait du bien.
Si t'as mal, le blues te fait du bien. Si t'as mal, le blues te fait du bien. Oh, si t'as mal, 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 le blues te fait du bien. Le blues te fait du bien. Si t'as de l'air, le blues te fait du bien. Si t'as mal, 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 le blues te fait du bien. Oh, si t'as mal, je vais te faire du bien. Oh, si t'as mal, je vais te faire du bien. Oh, si t'as mal, je vais te faire du bien. Oh, si t'as mal, je vais te faire du bien. Oh, si t'as mal, mal. Fait du mal, 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 le blues te fait du mal, 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 le blues te fait du bien.
Yeah. Jean-Christophe Panico à la guitare et au chant. Jean-Christophe Panico pour Pedro, pour notre ami Pedro. C'est sûr qu'il nous entend en ce moment. Et de toute façon, des fois, il écoute en live, puis des fois, il écoute en podcast. Donc, on est sûr qu'il écoute, d'accord ? Merci pour lui, vraiment. Ça, c'est, ouais. C'était quelque chose. C'est vrai que c'est un titre qu'on a fait, on a fait ensemble. Tu l'as fait aussi, Fabrice, avec lui,
oui,
à un moment donné ?
Il y a des vidéos. Ah.
Prends un micro,
il aimait
Fabrice.
Bien ça, viens. Puis il aimait bien ça, et puis... un morceau qu'on chante jamais parce qu'on en a marre de chanter.
Tiens, prends le bleu ou le rouge si tu veux. Ouais.
Alors, il aimait aussi Sweet Home Chicago.
Ouais, il aimait bien l'émission, c'est vrai. Il écoutait de temps en temps.
Ouais. On joue quoi? Bah, on pourrait jouer, je sais pas moi, Sweet Home Chicago.
Non, non, il aimait bien l'émission aussi. Il est pas que le morceau.
Il a buffé, il a buffé sur plein de trucs. Ouais. Hein, franchement, on s'est retrouvé sur des fins de session. Pff, oh là là.
La petite ceinture aussi.
Plus ou moins mémorable.
Patrick, viens prendre le micro bleu parce que sinon Jean-Christophe va encore jouer.
Ça va, non.
Jean-Christophe, t'avais préparé un autre truc, forcément.
Ah non, mais on peut.
Eh ben donc,
si Fabrice est là,
fais-nous un truc
qui est pas préparé. Fabrice est là, il peut chanter.
Fabrice, tu veux chanter quoi?
Eh ben ma foi,
t'as pas amené ta guitare, Fabrice. Bah, mais c'est pas grave.
J'ai pas amené ma guitare.
Allez, on va tous chanter Sweet Home Chicago pour Pedro.
Carrément.
Lente ou rapide, tu la veux?
Non.
Comme tu la sens.
Allez,
allez.
Tu la fais
en mi ou?
On la fait en mi, c'est bien.
Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to that sweet old baby. Sweet home Chicago. Howdy, hey, baby, don't you wanna go? Howdy, hey, woo. Baby, don't you wanna go?
Oh, come on.
Back to that same old place, sweet home Chicago. Well, one and one is two. Six and two is eight. Come on, baby, don't you make me late. Come on. Don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home Chicago.
Yeah, talk your stuff.
Des versions de Sweet Home Chicago, on en a eu.
Oui.
Mais alors celle-là, j'espère que vous l'avez bien écoutée, parce que ça, c'était énorme. Et là, Fabrice nous a sorti un truc, waouh.
Au chant.
Ça, le Pedro l'aurait aimé.
Ah oui, et je te préviens, Fabrice, c'est enregistré, ça va être répété, déformé en fluffy. C'est obligé. Avec Jean-Christophe à la guitare, voilà.
J'ai une question à te poser, Marc.
Ah, vas-y, Jalbi.
Le Sweet Home Chicago, c'est... Tu as appelé cette émission comme ça parce que ton métier, c'était de dire 1 plus 1, 2, 2
oui,
plus 2, 4.
Exactement. Et je n'ai pas dépassé 16, en fait. C'est ça, l'idée. Et c'est pour ça que je m'en suis arrêté à Sweet Little Sixteen, tu sais bien. Hein. Pour notre ami Pedro, c'est cette émission numéro 1030, voilà, entièrement ou presque dédiée à Pedro. Et puis ce soir, on va se retrouver parce que la fête n'est pas finie, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 16h sur le 666. Et puis tout à l'heure, on aura Eric Douady au téléphone. Non, pas au téléphone, dans le studio. Eric Douady, tellement l'habitude de faire des... Est-ce que tu peux prendre ton portable, Eric, s'il te plaît?
Et ce on soir, sait plus quand on même, il y a un quota de direct, on a dépassé.
Ouais, c'est ça.
Une exclusivité ce soir au Sous-Bock. On fait pas la chenille, c'est la danse du canard.
Ah d'accord. Eh ben écoute, tu me procureras le morceau parce que je crois que je n'ai pas ça dans ma liste. Je voulais parler d'Éric Douady qui nous a gratifié d'un bouquin, hein, d'un livre qui sort cette semaine, avec lequel on va s'entretenir juste après le disque qui vient. On va parler musique, on va parler blues, on va parler blues rock avec Patrick, avec Fabrice, avec Jean-Christophe, avec Fred, avec Jalbi, avec tous les amis qui sont dans le studio. En attendant, on va écouter un petit peu de musique. Il s'agit de Monsieur Bernard Allison. Voici Bernard Allison. Bernard Allison, extrait de son dernier album qui s'appelle Let It Go avec le titre Same Old Feeling. Merci à vous qui êtes sur le timeline de Sweet Home Chicago via Facebook, qui continue à suivre l'émission, bien sûr. Il y a un off qui se déroule en ce moment, je ne vous en parle pas, c'est juste indescriptible. On a Jean-Christophe Panico qui est dans le off en train de beugler, il n'y a pas d'autre mot, du Dick Rivers avec Faire un pont. Voilà, le genre de truc qu'aurait adoré notre ami Pedro. Nous, on va poursuivre avec Manu Lanvin pour deux raisons. D'abord parce que Manu Lanvin, il a fait partie du dernier festival qu'a pu nous organiser Pedro, c'était en septembre dernier, septembre 2017, à Guy Primessac, chez lui, dans son jardin, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure. Et puis aussi parce que Manu Lanvin sera en concert ce soir au Sous-Bock à partir de 21h30. Si vous n'avez pas vos places, dépêchez-vous de les réserver parce que ça commence à faire beaucoup de monde qui veut venir ce soir au Sous-Bock à Coville, voilà, au sud de Caen. Monsieur Manu Lanvin avec le groupe Anoxy en première partie. On va écouter tout de suite un extrait de son dernier album en date, ça s'appelle J. Jekyll on the Radio. C'est monsieur Manu Lanvin. Manu Lanvin qui sera en concert ce soir au Sous-Bock à partir de 21h30. Je suis, non pas au téléphone, mais dans le studio en direct avec Eric Douady. Eric, bonjour Eric.
Eh ben bonjour Marc, merci de l'invitation.
Écoute, tu as assisté à l'entièreté du début de cette émission. Je voulais savoir ce que tu en pensais parce que.
je crois que j'ai trop bu déjà.
Alors, vous coupez le Coca-Cola de monsieur Eric Douady. S'il vous plaît. En fait, l'idée, c'est que, voilà, moi, je voulais te faire venir pour parler de ton livre également,
et
puis pour
gentil,
partager un moment de convivialité, parce que ça, ça fait partie de la tradition dans le blues, en tout cas du moins celle que l'on connaît nous ici en Normandie, en Bretagne, c'est le partage. Et puis le partage, c'est pas que de la musique, c'est aussi des bonnes choses, c'est des bons vivants qui sont là autour de quelque chose qui les passionne tous. Je voulais juste savoir, Eric, si tu peux te présenter d'abord aux auditeurs. On l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois que tu viens dans cette émission. Eric, tu écris dans Soulbag, c'est à peu près tout ce que les auditeurs savent. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens?
Oui, j'écris dans Soulbag depuis une vingtaine d'années. Je suis content d'être ton collègue, et c'est un magazine qui m'a beaucoup, beaucoup appris, donc je pense que j'en connais sur le sujet un peu moins que tous les gens que je lis depuis que je suis ado, puisque mon père était abonné. Donc c'est un honneur pour moi d'être en compagnie de gens comme toi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je préfère vraiment qu'on parle en direct et au lieu du téléphone, l'interview par téléphone, tu vois, parce que tu vois, on a de quoi faire. Il y a une bonne compagnie. Voilà, sur moi, il n'y a pas de voilà, je fais ça sur mon temps libre. J'ai été content de faire ce bouquin qui était un truc qui me trottait dans la tête depuis un petit moment.
On va en parler, Eric, de ça, parce que voilà, tu viens du monde de la sociologie aussi. Ça, c'est quelque chose en fait, j'ai l'impression qu'avec ce bouquin, tu as un petit peu mélangé ta passion et ton métier.
Oui, enfin, j'ai jamais trop voulu mélanger les deux, parce que j'aime pas trop les gens qui sont monomaniaques.
ça fait beaucoup rire, nos invités.
disons que je voulais pas être comme
ça. Je voulais
ça,
juste dire à Nathalie qu'elle a bien fait de me donner un cornichon, parce que je ne peux plus parler.
Oui, c'est pour ça que j'en ai pas pris. Non, j'en ai pas pris. Donc, voilà, j'en ai tellement dans mon entourage.
Des cornichons?
Oui.
Oui, nous aussi, hein, ça, je te rassure. Voilà, alors, on va essayer de reprendre le contrôle de cette émission, n'est-ce pas? Et juste pour te dire, Eric, d'abord, que très sincèrement, je suis très heureux de t'accueillir dans cette émission, en direct live, parce que de toute façon, que ce soit au téléphone ou dans le studio, ces interviews sont uniquement en direct. Je sais qu'il y a des collègues qui le font et je les en félicite, en différé, et qui prennent à peu près 6 heures pour faire 3 minutes d'interview. Moi, pour faire 3 minutes d'interview, il me faut 3 minutes de travail. Donc, c'était ça l'idée. Et donc, si ça ne va pas, ça ne va pas. Et de toute façon, ça passe en direct. On parle de ce livre qui s'appelle Buried Alive in the Blues. Je pense, merci beaucoup à Nathalie, qui compense depuis tout à l'heure, qui est en train de marquer des points. Le livre s'appelle Buried Alive in the Blues. Qu'est-ce que ça veut dire pour les non-anglophones, déjà, Eric?
Déjà, c'est un titre d'un morceau de Janis Joplin, hein, composé par Nick Gravenheids, qui est un des bluesmen de Chicago.
Qui est toujours en activité, d'ailleurs.
Voilà, oui, qui est en Californie, au nord de la Californie, maintenant.
Jean-Christophe, je te sentirais bien devant le micro rouge, juste pour ponctuer un petit peu cette interview. Vraiment, oui. Ça me plairait que tu sois avec moi pour aider... Pour m'aider, non pas à la traduction, mais à mener ces débats. Parce qu'avec Eric, je sens qu'on va parler de choses vraiment intéressantes. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Et là, j'ai tous les autres invités contre moi, on est bien d'accord. Merde, la boulette. Eric.
Voilà, donc c'est un titre qui a été composé par Gravenheids pour Janis Joplin, qui n'a pas eu le temps d'enregistrer. Elle est décédée juste avant de l'enregistrer. Donc c'est sur l'album Pearl, il y a juste la piste instrumentale. Et ça me semblait un bon titre pour à la fois parce que c'est le nom du morceau, et puis aussi pour caractériser toute cette génération de musiciens qui ont été vraiment... absorbé dans le blues.
La première chose qui arrive, c'est le titre. La deuxième, c'est la photo. Johnny Winter. Pourquoi Johnny Winter?
Parce que c'est une belle photo.
Et pas forcément parce que c'est Johnny Winter.
Bien sûr que si. En fait, Johnny Winter, qui est...
C'est dans les années 80, ça. Il était en forme.
Hein. Ouais, 83. Il était, à mon avis, dans sa meilleure période.
Son apogée.
Et puis on aime tous Johnny Winter, je pense. Et c'est vraiment un artiste emblématique de ce mouvement musical, le blues rock. Et c'est un artiste vraiment ancré dans le blues, qui a été au sommet du rock et puis qui est revenu après au blues le plus pur, le plus dépouillé. quitte à perdre son public, mais en fait il s'en fichait, il voulait juste faire ce qu'il aimait.
Ou une partie de son public, on va dire.
Une partie de son public, qui était énorme dans les années 70. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer ça, mais c'est vrai qu'il jouait dans les stades.
Il suffit de voir le dos de la pochette de l'album live, où il y a, je ne sais pas, peut-être 80 000 personnes qui sont en train de le regarder dans un stade.
Ouais,
et puis, rappelons qu'à cette époque-là, il s'est quand même occupé d'un certain Muddy Waters.
Voilà, c'était juste, juste après cette période rock'n'roll, et en fait, c'est en revenant auprès de Muddy Waters qu'il a dit, bon, maintenant, je ne fais plus que du blues. Alors, ses managers, à l'époque, n'étaient pas très contents, et lui s'en fichait, et je pense que nous, on y a gagné, les auditeurs en tout cas. Et il a fait découvrir vraiment à cette génération, à toute une nouvelle génération, la musique de Muddy Waters, qui était à l'époque tombé dans l'oubli, hein, c'était le truc des vieux. Chess Records n'existait plus. Lui a permis à Muddy Waters de terminer, d'avoir une bonne fin de carrière, ce qui est très rare dans le monde du blues. Et on lui doit beaucoup, quoi.
Alors, Johnny Winter, tu l'as vu sur scène, forcément. C'est quelqu'un que
comme vous tous ici, hein, non ?
Qui n'a pas vu Johnny Winter ? Levez le doigt. Ah merde, il y en a quand même deux, trois. Alors, il est un peu trop tard, je voulais juste vous le dire. Il nous a quittés à l'âge de 70 ans. Comme, j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens de cette époque-là, les gens qui sont au milieu des années 40, Clapton est toujours là, enfin, il y en a quand même quelques-uns, bien sûr, mais je ne sais pas si ça conserve vraiment tant que ça le blues et le rock, finalement.
Ah ben, de toute façon, ces gens-là, comment ça, en fait,
ils ont un petit peu brûlé la bougie par les deux bouts.
Oui, complètement.
Quelque part, il faut se resituer dans le contexte. Johnny Winter, il a fait Woodstock, tu l'as dit. Quand on a fait Woodstock, on n'est pas tout à fait qu'un enfant de cœur. On a quand même goûté à plein de choses. Et est-ce que ça conserve vraiment est-ce que c'est le but, déjà? Est-ce que c'est le but pour ces musiciens-là, dont tu parles dans ce livre, Buried Alive on the Blues, de perdurer et puis de faire carrière sur 50 ans? Est-ce que c'est vraiment leur but?
C'est une génération de musiciens qui n'avaient pas de plan de carrière. Hein. Ils faisaient vraiment ce qu'ils aimaient. Je pense qu'un Johnny Winter, mais c'est vrai aussi pour des musiciens, des artistes de rock, hein, Bob Dylan, un Neil Young. S'ils n'avaient pas pu faire de musique, qu'est-ce qu'ils auraient été? Rien du tout.
Vendant. Et là, on parle sous le contrôle de notre ami Jean-Christophe Panico, parce que là, on vient de citer Bob Dylan, quand même, qui est un petit dieu. On est d'accord, Jean-Christophe?
Johnny Winter aussi,
qu'est-ce que ça veut dire? Mais Johnny Winter aussi, bien sûr.
Ouais, moi, j'ai appris à jouer de la guitare en écoutant les disques de Johnny Winter, vraiment. J'écoutais vraiment ça quand j'étais très jeune. Alors moi j'ai une...
Tu as été très jeune, parce que tu as toujours été jeune, en fait.
Non, mais ça fait partie des artistes qui m'ont interpellé. Mais tu disais, ils ont vécu 70 ans, il s'en est quand même bien tiré, Johnny Winter. Il était quand même parti pour être cantonné dans l'obscurité toute sa vie, avec un chapeau vissé sur le nez. Ouais. Il a quand même une carrière extraordinaire, quoi.
Extraordinaire, ouais.
Voilà. Mmh. Après, moi, personnellement, j'ai un avis un peu dissident sur la période d'or. Moi, je trouve que le retour au blues, Johnny Winter, lui a fait perdre ce qui le rendait très intéressant. Mais voilà, c'est une question de sensibilité, quoi. Je trouve que dans les bluesmen, il y avait des disques plus intéressants que les disques de blues de Johnny Winter. En revanche, ses albums N, Still Alive and Well, où il mélangeait la pop, où il y avait de la country, où il chantait très très bien et tout, moi, ça m'intéresse plus. Mais c'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Ça reste, de toute façon, un artiste énorme.
C'est pour toi, Eric, un artiste emblématique blues rock, toi qui l'as mis en couverture de ton livre?
C'est un artiste emblématique parce que c'est un de ceux aussi qui ont eu une carrière longue, hein, puisque, donc jusqu'à la fin. C'est aussi ce que.
Alors il est né en 44, si je me souviens bien. Il a dû démarrer vers 58-59.
Oui, voilà. En fait, quand il sort son premier album sur Columbia, il a déjà derrière lui 10-15 ans de carrière. 10 ans de carrière discographique au moins, et puis il meurt sur la route, en fait, hein. Donc une carrière d'une grande longévité, et puis surtout, hein, c'est un des artistes qui a eu le plus de succès commercial, notamment via les disques que tu viens de citer, quoi, voilà.
Il a fait son dernier concert à Cahors, il est décédé en Suisse, hein, sur la tournée dont tu parlais. C'était en quelle année? 2015, je crois. 2014, le temps passe vite.
Là encore, j'ai trop bu.
Johnny Winter donc n'est pas l'un des seuls artistes que tu évoques, bien sûr, dans ce livre. Moi, je trouve des gens que je ne qualifierais pas de blues rock et qui pourtant sont en bonne place ici. Je pense par exemple à un garçon qui s'appelle Charlie Musselwhite, qu'on écoutait en première heure de cette émission. Charlie Musselwhite, qui était vraiment, on va dire, tiens, né en 44 lui aussi, comme Johnny Winter, l'un des bluesmen les plus adoptés par la communauté noire américaine du blues, à commencer par Muddy Waters, justement.
Oui, 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 tout à fait. Alors, Muscle White, c'est certain. Moi, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, parce qu'on parle aujourd'hui de, notamment, de, bah, depuis les années 90, en fait, on parle de blues rock. C'est une catégorie un peu fourre-tout, on ne sait pas trop ce qu'on met. Voilà, si on écoute, j'aime beaucoup par exemple AC/DC, mais pour moi c'est pas du blues. Mais si on écoute certaines personnes,
AC/DC a fait des blues.
Oui, d'accord. Mais si on écoute certaines personnes, voilà, c'est un groupe de blues rock. Bon, ce que j'ai voulu montrer, c'est en fait l'enracinement de cette musique dans le blues, une forme musicale, mais aussi tout un monde social. Et Muscle White, lui, il vient vraiment de ce monde-là, c'est-à-dire même s'il est blanc, il a grandi parmi tous ces gens-là, et c'est aussi un de ceux qui, comme Michael Bloomfield, Paul Butterfield, avec qui il allait dans les clubs du Southside à Chicago, c'est un de ceux qui ont vraiment initié ce mouvement, notamment avec l'album Stand Back sur Vanguard, qui est un...
Voilà, 1967, on est un petit peu plus de 50 ans en arrière. Stand Back, Here Comes Charlie Musselwhite Southside Band. Et à ce moment-là, il n'est pas bien sûr à l'apogée de sa carrière, il a 23 ans, c'est un genou. Ouais. Il commence tout juste, et déjà ça devient une référence, et j'ai envie de dire maintenant c'est un album culte.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'on retrouve Harvey Mandel à la guitare, qui a après intégré Canedite, tous ces gens-là, quoi, voilà. Et c'est un album fondateur, comme le premier de Paul Butterfield à la même époque, quoi, voilà.
On va faire venir au micro notre ami encyclopédiste Alain Angelbert, parce que ça, c'est quelque chose qui, forcément, quand on parle d'Harvey Mandel et puis tous ces artistes-là, ça peut pas laisser indifférent. Il y a Jean-Christophe qui contrôle également son micro bleu, et on a notre ami Jalbi qui est au micro rouge. Harvey Mandel.
Et le blanc, il est où?
Le blanc, c'est moi qui l'ai. Harvey Mandel.
La dernière fois que j'ai vu Harvey Mandel, c'était à quelques mètres d'ici, au BBC.
Avec Candide.
Bah oui, il y a 2-3 ans. C'était...
Ah, oui. Ouais, c'est... ah oui, putain, oui, ouais, d'accord.
Mais ouais, c'est super musicien, Harvey Mandel.
Candide, c'est toute ma jeunesse.
Alors, ta jeunesse, justement, parlons-en de
la veille, quoi.
Ouais, c'était avant-hier. Allez.
À peu près, quoi. Un peu plus tard, quoi.
On the road again. Tout le monde, s'il vous plaît. On the road again. Élevé à John Lee Hooker aussi, hein. Il faut quand même le rappeler.
Oui, parce qu'ils ont fait un album en commun, quoi. Un très bel album qu'il faut avoir dans sa cinéthèque ou dans sa discothèque. Non, pas le meilleur, mais disons que c'est un truc qu'il faut avoir, quoi. Bon, il faut en avoir beaucoup quand même, mais après il faut avoir de la place aussi, quoi. Le problème, il est là, quoi. Non, j'ai un problème de rangement, moi.
Je suis en train de relire ton livre, Eric, et je m'aperçois que j'ai du mal à remonter au début de la phrase.
Ah, ça, c'est normal. C'est le premier livre, en fait, du coup, on les écrit toujours très mal, c'est ce que m'a dit l'éditeur.
Non, attends.
C'est pas ça. C'est pas ça. C'est la chose, il t'a édité, quoi.
Je vais juste citer, excuse-moi de te couper, je vais juste citer un passage du livre, on est page 86 dans Buried Alive in the Blues, ça s'appelle Buried Alive in the Blues, pardon, et l'extrait que je vous propose, c'est ça. Enfin, les anciens compères de Bloomfield se voient eux aussi courtisés par les maisons de disques. Barry Goldberg, on en parle avec qui il n'y a pas longtemps, Barry Goldberg, donc qui avec Steve Miller sous le nom de Goldberg Miller Blues Band avait pris la suite de Butterfield, désormais sollicité en tournée au Big John's et publié à 45 tours sur Epic, ça va pas échapper à Jean-Christophe, qui monte son propre Barry Goldberg Blues Band avec Charlie Musselwhite, Harvey Mandel et Roy Ruby. Epic, pardon. Publie en 1966, t'as vu un peu de lapsus, tu noteras. En 1966, leur album Blowing My Mind, après une série de 3 disques intitulés Chicago The Blues Today en 1966, avec James Cotton, Otis Rush, Junior Wells, Walter Horton et Musselwhite et d'autres. Hein, on parle de Denmark Records, mais non, on parle de Vanguard Records, qui recrute Musselwhite, qui prépare un disque avec le batteur Fred Billo des Aces. Ça vous parle, ça, les garçons? Oui, Fred Billo, hein, quand même. Hein, on aurait Jacques Mangantini avec nous, voilà, il nous ferait une demi-heure de plus. On est bien d'accord. Jacques, si tu nous écoutes, salut à toi. Monsieur Fred Billo des A6 et le bassiste Bob Anderson. Mais alors qu'il répète avec ses amis Magic Sam à la guitare et Otis Spann au piano, le producteur Sam Charters lui impose de retrouver Mandel et Goldberg pour mieux coller la formule de Paul Butterfield Blues Band. Bien que son succès commercial n'atteigne pas celui de Butterfield, l'album Stand Back Here Comes Charlie Musser White, dont on parlait un petit peu plus haut, est un classique enregistré en 3 heures à peine, qui, à défaut de rémunérer son auteur, ça doit te rappeler les Witch Doctors, Jean-Christophe. Musser White n'est payé que quelques cents. Révèle l'originalité du jeu de Mandel et permet à Charlie de poser les bases de sa personnalité musicale avec un thème fortement émotionnel, Christo Redemptor, repris au jazzman Duke Pearson. Et la musique et la mise en musique de l'expérience de l'errance et du déracinement pour Strangeland. On reparle de Charlie Musser White.
Plusieurs phrases là. Tu dis j'ai qu'une phrase, mais non, il y en a.
Non, il y en a plusieurs. Mais j'arrivais pas à trouver le début de la première. C'est vrai.
Non, mais le bouquin il fait combien de pages quand même
Je vais te le dire.
Non, il y a 352 pages, mais c'est pas exactement. Tout écrit comme ça, voilà.
Marco, juste une petite question. Est-ce que Patrick. Tu notes tes élèves quand ils lisent comme toi tu nous lis là?
Alors, il vaut
parce
mieux
que
pas.
Là, c'est un peu dramatique quand même. Hein, j'espère qu'ils t'écoutent parce que la ponctuation, aucune ponctuation. Non, mais c'est vrai, tu nous as lu ça. Non, ça franchement, Marco, là, il faut que tu te ressaisisses. Ton trimestre n'est pas bon.
Non, peut-être que ses élèves boivent moins de Jim Beam.
Non, mais il a changé parce qu'il m'écoute en ce moment.
Il a changé, quoi.
D'ailleurs, c'est on ça. Dit plus j'ai lu, on dit j'avais lisé. Hein, et en fait, l'idée, c'est que, voilà, dans ce livre, tu nous assènes des noms de bluesman qu'il faut absolument connaître, les uns par rapport aux autres. Quand tu nous présentes un bluesman, c'est toujours par rapport à d'autres. Et alors. La question qui arrive, et tu la sens déjà venir, c'est est-ce qu'il faut avoir une certaine culture blues ou blues rock pour lire ce livre Buried Alive in the Blues?
Non, pas du tout. En fait, les.
C'était la question du diable.
Non, en fait, justement, j'ai pris beaucoup de soin justement à présenter ces musiciens parce qu'en fait, ce qui m'intéresse. On le verra à la lecture, c'est sans doute moins les détails discographiques. Alors oui, il y a des petits passages comme ça sur les disques où qui joue avec qui, voilà. Mais c'est peut-être moins. Alors du coup, c'est peut-être parce que
c'est
je
pas
suis
l'essentiel
sociologue.
Du bouquin.
Voilà. En fait, ce qui m'intéresse plus, c'est d'où viennent ces musiciens, qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et pour comprendre en fait ce que charrie toute cette musique, parce qu'en fait, elle est nourrie de leur vécu. Et moi, ça me semble. Enfin, à titre personnel, c'est ce qui m'intéresse plus que de savoir qui a enregistré avec quoi. Ce qui m'intéresse plus, non, je suis curieux, je suis un amateur de blues, j'aime ça, donc j'aime bien
c'est
savoir.
Tu es plus
ça.
Qu'un amateur, tu es un érudit, tu es un spécialiste.
Ouais, voilà. Mais ça, enfin, non, enfin, mais ce qui m'intéresse. Ah voilà, ça c'est le sociologue. Mais c'est toi qui m'as. Non, voilà, ce
ça
qui
fait partie du jeu.
Le travail qui
on
m'intéresse.
On avait dit en
faire,
direct.
Voilà. C'est ça. Le travail dans lequel je voulais me lancer, c'était plus un travail de compréhension de qui sont ces gens, plus que de compréhension qu'est-ce qui a été enregistré, comment. Voilà.
Alors, est-ce que là, c'est un truc que je t'ai absolument pas demandé avant. Pourtant, on a fait une demi-heure de route ensemble. J'aurais pu t'en parler, mais comme je suis un petit peu salaud, qu'on fait du direct, je vais te proposer un truc. Tu vas pas pouvoir refuser. Je te donne le nom d'un artiste.
Oui.
Et en quelques mots, quelques phrases, après, tu es libre. Si ça prend 10 secondes ou 200. Tu nous dis quelque chose sur ce personnage.
Je veux bien.
Charlie Musser, il me l'a déjà fait, ses casse-couilles, hein, je te préviens.
C'est très casse-couille. J'en fais que 25, hein, t'inquiète pas. Charlie Musser White.
Que dire, c'est un trésor. C'est un trésor qu'ont les États-Unis aujourd'hui. Il sera en concert en avril. Il fera 3 dates à la Cigale, plus un festival en France avec Ben Harper.
Ben Harper. On l'a vu sur la 5 cette semaine.
Oui, voilà, il y a leur nouvel album commun qui sort le 30 mars.
Exact.
Découvrez ce monsieur, parce que c'est pas juste le faire valoir de Ben Harper, c'est auprès de ces gens-là, de gens comme lui, que Ben Harper, que des gens comme Ben Harper ont appris. C'est quelqu'un qui a. Enfin, le livre commence avec Charlie Musser White et se termine avec lui. Donc, on suit un peu son parcours. Et à travers son parcours, on croise tous ces gens. Bloomfield, Winter, etc.
Là, je crois qu'il y a un record qui vient d'être battu. Là.
Eh ben voilà, tu vois, tu m'as dit 200 secondes. Non, mais je peux aller jusqu'à 200 secondes.
Je parlais juste de ce qui se passe derrière toi, Eric. Mais
je voudrais juste rajouter par rapport à Ben Harper et Charlie Musser White, c'est que Ben Harper. Il idolâtre Charlie Musser White. Enfin, faut pas oublier.
Oui,
c'est
voilà,
pas,
oui.
Il n'y a pas un leader qui s'appelle Ben Harper. C'est Charlie Musser White aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, quand il l'a pris avec lui, qu'il a fait le premier album, il l'idolâtrait quoi. Enfin, je veux dire, il le respectait le personnage. Alors, on connaît nous, enfin, le grand public connaît plus Ben Harper que Musser White, mais faut quand même pas oublier que. Ben Harper, lui, son propre ressenti qu'il a fait, parce que j'ai lu un petit peu quelques articles là-dessus. Il a dit, Musser White est un grand bonhomme, quoi.
Ouais, et vous avez dans le bouquin le témoignage de Ben Harper qui parle de leur... et non seulement Ben Harper, mais Tom Waits, que des gens, tous les grands de la musique américaine révèrent M. White.
Alors, puisqu'on parle de Ben Harper sur France 2, enfin sur Antenne 2, pardon, parce qu'on parle de Ben Harper, tu l'as interviewé pour savoir ça ou tu as cité quelque chose que tu as lu?
Comment en fait, tous les
Derrière ça, il y a la question d'où viennent tes sources, en fait? Comment est-ce que tu as fait pour constituer cette masse de documentation?
Tu as commencé en faisant le parallèle avec mon activité, mon métier de sociologue.
Oui.
Je voulais pas faire un bouquin académique. Quand j'ai dit je veux pas mélanger les deux, voilà, je voulais pas faire un bouquin académique parce que il y a beaucoup de livres universitaires qui sortent. Hein. Aux États-Unis, il y a des thèses sur la musique populaire, toutes les sortes de musique populaire, y compris le blues, des trucs très très savants. Moi, je considère que j'ai pas vécu ça. Je veux pas intellectualiser le truc. Et j'avais à cœur de donner la parole aux musiciens eux-mêmes. En étant là un petit peu comme celui qui organise le récit, mais qui laisse avant tout la parole aux artistes, à ceux qui ont fait cette histoire. Donc je me suis beaucoup appuyé sur des interviews que j'avais faites, je crois une cinquantaine de mémoires, hein, ça va de Monsieur White, oui, à Ben Harper. Voilà, donc pour le livre, alors vous avez dans le bouquin, il y a des critiques qui peuvent être faites, hein, que j'entends, c'est qu'un tel, il n'est pas assez présent.
Par exemple, ça c'est infini, ça. Tu vas chaque fan.
Voilà, mais il y a des grandes figures. Je sais, par exemple, que j'ai sous-exposé quelqu'un comme Roy Buchanan, qui est un artiste essentiel dans le mouvement.
Essentiel, oui, pour certains, mais
ça sera l'objet du deuxième bouquin.
Voilà, c'est ça.
On aurait Fred Chapelier autour du micro, il dirait oui, tu parles pas assez de Roy Buchanan. On est d'accord.
Mais c'est clair, mais il mérite un livre, et ce sera peut-être le deuxième. Simplement, dans le récit, je ne l'ai jamais rencontré, donc j'en parle de ce que... ZZ Top, pareil, hein, je n'ai jamais rencontré ces gens-là. Donc j'en parle, mais je donne l'importance à ceux qui parlent, quoi, en fait, que je fais parler. Donc ceux que j'ai interviewés, voilà, ça va de Muscle White, Winter et compagnie, jusqu'à aujourd'hui Ben Harper, Derek Trucks et tous les actuels, Gary Clark.
J'ai envie de dire, quelle que soit la couleur de peau de l'individu, du musicien, du musicien.
Ben là, en fait, aussi, c'est un deuxième objectif du bouquin. Donc, le premier, c'était de montrer l'ancrage dans le monde du blues de ce qu'on appelle le blues rock. Et puis, le deuxième objectif, c'était, on parle beaucoup, on entend beaucoup de spécialistes ou d'experts, etc., parler de blues blanc, comme si, finalement, c'était une question de couleur de peau. Moi, je me suis intéressé au blues rock américain avec des gens comme Butterfield, Winter, mais aussi, dans les années 90, Buddy Guy, Luther Allison faisaient des disques qui peuvent être qualifiés de blues rock. C'est pour moi... Et quand on regarde le groupe de Butterfield, c'était un groupe avec des blancs, des noirs, etc. Et ils jouaient dans des endroits. Un soir, ils jouaient devant un public blanc, un soir devant un public noir, etc. Donc pour moi, ce qui était important dans ce bouquin, c'était de montrer cette profonde mixité, en fait, de cette musique, de ce courant musical. C'est pas juste un blues blanc comme on l'entend trop souvent.
Est-ce que tu penses que tu te poses, en disant ça, à quelqu'un qui écrit d'ailleurs dans le même trimestriel que nous, M. Gérard Herzhaft, qui a été l'auteur de plusieurs éditions de l'Encyclopédie du blues depuis les années 70, et qui a défendu le fait que le blues, ça appartenait au noir, point, virgule.
Ah ben non, il a raison, c'est eux qui ont créé ça, mais c'est pas parce que c'est pas du fait de leur couleur de peau, c'est du fait de leur expérience, l'expérience qu'ils vivaient. Hein. Et Gérard Herzhaft, qui adore lui aussi Muscle White, qui est un proche de Charlie Muscle White, qui... Donc,
Jalbi, si tu as un truc à dire là-dessus, vas-y. Hein.
Voilà, moi je m'oppose pas du tout à lui. C'est en le lisant que j'ai tout appris.
Ou Patrick.
Ce que dit Eric, qui me, enfin moi je suis, je plus sois c'est dire, comme dirait notre prof de droit à côté, il va adorer ça dans les verbes.
Maître de voyage.
Je dois avouer que c'est vrai que c'est pas réservé. qu'aux Noirs.
Vous êtes sur France Culture.
Ils ont une maîtrise du blues, mais c'est pas réservé aux Noirs. Et je trouve que Eric en parle très bien. Et je, enfin, moi, je, j'ai qu'une envie là, c'est de l'acheter son bouquin.
Non, mais en plus,
l'acheter, c'est prévu. Mais
à un moment donné, il faut aussi laisser parler les oreilles, etc.
Voilà. Merci.
Bien joué. On prend cette famille d'artistes. On prend Mike Bloomfield. On prend Mick Gravenheid. On prend Paul Butterfield. Ouais. On prend Charlie Musselwhite ou John Hammond Jr. qui fait pas du blues rock, mais du blues tout court.
Bien sûr.
Mais il y a dans ces gens-là plus de concentré de blues que dans beaucoup de bluesman modernes. Enfin voilà. On peut parler de gens. Enfin, on va pas dire de nom, mais.
Si, Donald Kinsey.
Non, mais il faut balancer là. Il faut balancer.
Quand on voit l'intensité. Et tu sais, on parlait juste de Charlie Musselwhite. Quand tu vois les interviews que donnait John Hooker de son vivant, qui te parlait du jeu de Charlie Musselwhite, tu vois que pour lui, il n'y a pas de question de blanc, de noir, etc.
Alors, Charlie Musselwhite, c'est quand même quelqu'un à part. Moi, je suis désolé.
À part parce qu'il est,
j'en ai parlé tout à l'heure à Eric en tout premier. C'était à dessein parce qu'en fait, c'était un garçon. La couleur de peau, on s'en.
Hein, non, mais on est bien d'accord, c'est ce qu'on est en train de. C'est pour ça qu'on te demande.
Non, ce que je veux dire, c'est que
je veux dire que je défends ce que dit Eric et son rapport avec son bouquin. Ce qui est génial, c'est que justement, il ne veut pas du tout faire une comparaison, dire que le blues doit appartenir à la communauté noire. Non. Et il y a des mecs blancs, et bon, Charlie en fait partie, mais il ne faut pas oublier que c'est. Voilà, enfin, je veux dire, ça leur a. C'est, tout le monde peut le jouer, quoi. Et tu as des gens très, très bien qui le jouent.
Eric ?
Oui, alors après, il y a une évolution au fil des années, des décennies, hein, c'est ce que je montre aussi dans le bouquin. On passe d'Américains blancs, qui soient pauvres ou de milieux populaires comme Musselwhite, ou qui viennent de milieux aisés comme Bloomfield ou même Winter. Ces gens-là, ils ont fait ce travail de familiarisation avec le monde social d'où est issu le blues. Hein. Au fil des décennies, ce qu'on voit, c'est qu'après, on voit apparaître une génération plus des années 80, des années 90, hein, Kenny Wayne Shepherd, par exemple, que tu mentionnais plus tôt dans l'émission, hein, Bonamassa, etc. La différence, c'est que, et ça touche pas leur musique, moi j'aime bien ces gens-là, j'en parle dans le livre, enfin bref, voilà. Il y a une différence que j'essaye de montrer, c'est que. Les gens comme Winter, quand ils écoutaient Muddy Waters, ils étaient fascinés par Muddy Waters.
Je pense qu'ils avaient une certaine vénération quand même.
Ils avaient une totale vénération. Ils essayaient de les copier tout en sachant qu'ils ne pouvaient pas trop les copier. Parce qu'ils ne chantaient pas comme eux, parce que voilà. Et c'est en fait de leur incapacité de les copier totalement qu'ils ont construit leur propre style.
Alors tu parles. Oui, excuse-moi.
Pardon.
Termine.
Après. Au fil des générations, on a vu apparaître, et Kenny Wayne Shepherd, qui est cité dans le bouquin, le dit à un moment, il dit j'écoutais quand j'étais gamin les disques de Muddy Waters et Johnny Winter, et moi je voulais être Johnny Winter. Donc cette génération-là, en fait, n'était pas en vénération devant Muddy Waters, mais était en vénération devant le guitariste blanc qui jouait à côté de Muddy Waters.
Voilà.
Et c'est ce qui fait la différence, à mon avis. C'est pas que leur musique est moins bonne, c'est juste qu'ils ont d'autres références qui sont peut-être plus loin de ce monde du blues.
Il y a un autre artiste dont je voulais te parler, parce que ça me paraît être un petit peu l'emblème du blues rock américain, malgré qu'il nous ait quittés il y a déjà longtemps, c'est Stevie Ray Vaughan.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, Stevie Ray Vaughan, ça représente quoi pour toi? Est-ce que c'est, au départ, un copieur d'Albert King, un copieur de Jimi Hendrix, ou un type absolument original, qui a voulu se lancer dans un créneau qui, à l'époque, à la fin des années 70, n'était pas franchement porteur, parce qu'on était en pleine période punk, en période disco, et pour le blues rock, il n'y avait juste rien. J'ai l'impression quand même que c'est lui qui a relancé le blues, on va dire 15 ans après le blues boom anglais.
Oui, ça a été un des acteurs décisifs et l'acteur sans doute majeur aux États-Unis en tout cas. Fin des années 70, il joue déjà depuis un certain moment.
Il est né en 1954, Stevie.
Voilà, et c'est pas le seul en fait. Ce que je voulais aussi montrer, c'est que bien sûr c'est le plus gros vendeur de disques. C'est simplement tout autour de lui, il y a un mouvement. Il y a Kim Wilson et son frère Jimmy Vaughan qui ont les Fabulous Thunderbirds. Il y a les Room Full of Blues sur la côte Est. Alors, Duke Robillard, dans le bouquin, il raconte que, justement, à la fin des années 70, quand il commençait à percer un peu, les gens, ils n'aimaient pas trop ce genre de musique. Il dit on se prenait des canettes sur la gueule quand on montait sur scène.
Des canettes hit, même.
Elle est bonne,
d'où l'expression.
Et puis,
désolé.
Et Steve Erevogan, voilà, c'est un copieur, mais comme tous, j'ai envie de dire, il essayait de copier les gens qu'il admirait. Il n'y arrivait pas totalement, des fois il y arrivait. Puis en fait, c'est au fil du temps, il a fait son style qui est très différent de.
Tout ça pendant que Fred se sert un troisième Jack Daniel's.
Troisième, t'es généreux, là, t'en as oublié, là, t'as pas su. Et pour parler de Steve Erevogan. C'est lui quand même qui a relancé la carrière de Buddy Guy. Il faut pas l'oublier.
D'Albert King peut-être, non?
Non, non.
Non?
De Buddy Guy.
Ah oui.
Avec Mary Little Lamb.
Ah oui, putain, vas-y, vas-y Jean-Christophe, fais-nous le.
Donc c'est le truc.
Exact.
Et Steve Ray Vaughan, c'est quand même un des artistes qui a vraiment relancé le blues dans les années 80.
80, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Quand c'était dans les périodes punk, disco et compagnie. Ouais. Quoi.
Mais en 1983, c'est quand même lui qui signe le solo sur Let's Dance de David Bowie.
Voilà.
Et rappelons-le.
Puis, absolument. Hein, et il faut se rappeler qu'il avait fait Montreux en 82 où il avait été hué. Il y a un album qui est sorti où justement on entend le... Les gens qui eurent Steve Ray Vaughan, et deux ans après, il est adulé, ce gars-là. Enfin, moi, c'est un guitariste que j'aime bien.
Voilà. On a bien compris, effectivement. J'habille.
Ouais, mais il est plus jeune que moi, quoi. Enfin, non, il était plus jeune.
Il avait deux ans de moins que toi.
Putain d'hélicoptère. Hein.
C'est ça.
Voilà. Dans les années 80, ouais, il a fait il a occupé la place que Johnny Winter occupait dans les années 70.
Oui,
quoi.
Exactement. Je parlais d'Albert King tout à l'heure, juste en survolant, hein, puisqu'on parle d'hélicoptère. l'idée, c'est que des bluesmen, comme on vient de citer, B.B. King, on peut citer Muddy Waters, on peut citer Albert King, qui effectivement...
Ouais, mais c'est des gars qui ont eu aucune carrière, on s'en rappelle pas, quoi.
En fait, ce sont des créateurs, des géants, hein. Moi, je dis ça pour les gens qui viennent d'arriver dans le poste, vous inquiétez pas, hein, c'est ce que t'as au Chicago sur Radio 666. Ce sont des gens qui ont aussi fait découvrir à d'autres. Quelle est la place des Rolling Stones dans ton livre, Eric ?
Alors moi, je me suis intéressé au blues rock américain,
oui.
Justement pour montrer cette mixité. Blues rock anglais, c'est...
C'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, voilà, qui est abondamment racontée déjà par dans plein d'ouvrages et qui fera peut-être l'objet d'un ouvrage après, j'en
sais rien. En tout cas,
le troisième.
Ben, j'ai déjà mon plan de...
Il y a un livre à lire absolument, je pense que tu l'as déjà lu, c'est My Life de Keith Richards. Ça, c'est un truc absolument incontournable.
Ben voilà, les Rolling Stones, voilà, ils ont vraiment, y compris aux États-Unis, ils ont eu un rôle très considérable, puisqu'ils ont, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont dit, ben nous, on a tout chopé à Muddy Waters, et donc ça a été les premiers. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus ce blues mixte, né dans le ghetto américain, quoi, blanc, noir... plus que ce blues blanc anglais qui est... D'ailleurs, les Rolling Stones, j'en parle dans le bouquin, mais je le mentionne comme étant le groupe de Brian Jones, qui est beaucoup oublié aujourd'hui au profit de Jagger Richards. Mais c'est son groupe à lui, c'est le groupe de Brian Jones au début. C'est lui qui faisait le répertoire, qui... Et d'ailleurs, chez l'éditeur, Le Mot et le Reste, vous avez un gros bouquin qui vient de sortir de Régis Cancelier sur les... sur les premières années des Rolling Stones que je recommande à tous les fans.
Tu peux nous donner les références du bouquin ?
J'ai pas le titre en tête, mais c'est chez Le Mot et le Reste, et c'est Régis Cancelier.
C'est le même éditeur que ton livre. Buried Alive in the Blues, pardon, Eric Douady, l'histoire du blues rock américain. Le Mot et le Reste. On va se retrouver dans quelques secondes, histoire d'écouter un petit peu de musique, parce que voilà, le blues, c'est aussi ça, c'est la musique. Voici Ten Years After, tiens, mes versions 2018. Thank you. Le nouveau guitariste chanteur de Ten Years After s'appelle Marcus Bonfanti. Et oui, c'est plus Joey Gooch. Ça fait déjà un petit moment qu'il a quitté Ten Years After. Chick Churchill est toujours là, Rick Lee est toujours là, et puis voilà, Colin Hodkinson est là. Donc il y a encore deux membres originels de Ten Years After dans le Ten Years After 2018. L'album s'appelle Sting in the Tail. Voilà, c'est pas facile de faire Sweet Home Chicago des fois.
Pourquoi tu dis ça?
Je voudrais dire quand même, j'admire la programmation de Marco quand même, parce que avec les blaireaux qu'il a dans le studio, il faut arriver à suivre le fil du truc. Je laisse la parole à mon ami Marco.
Merci, bon Jalbi. Écoute, les blaireaux, attends quoi, moi j'invite qui je veux, j'invite des blaireaux, j'invite des spécialistes du blues, j'invite des amis surtout. Parce que, qu'est-ce qu'il dit Patrick? Tu sais que c'est mieux avec un micro quand même.
Ce qui dit la restauration de Ben de Blues, c'est essentiel. Et la maîtresse de la restauration, c'est la diva qu'on applaudit.
Ah voilà. Voilà, le festival Bain de Blues qui aura lieu les 20 et 21 avril 2018, c'est un petit peu mon ami Jalbi qui m'oblige à cette transition. Mais on n'en a pas tout à fait terminé, malgré qu'il soit bientôt l'heure, non pas de nous quitter, mais de terminer cette deuxième heure de Sweet Home Chicago avec Eric Douady qui a pris le micro rouge. Vous allez voir, ça change tout.
J'ai changé de micro.
Eh ouais, carrément. Et puis on a également Jean-Christophe Panico, on a Fred Delforge. Ça va Fred? Non, il n'est pas là, Fred. Il est parti accompagner Patrick Le Cacheur. En tout cas, dans cette émission folle, 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 l'émission numéro 1030, Fred, il est là, Fred. Ah, voilà, il est là. Jean-Christophe également. On parlait tout à l'heure de blues rock, on parlait bien sûr de l'album, qu'est-ce que je raconte? Le bouquin, le livre, le pavé de M. Eric Douady qui s'appelle Buried Alive in the Blues, l'histoire du blues rock américain sur l'édition Le Mot et le reste. Et puis on évoquait quelques noms de bluesmen comme ça. Je te proposais Eric, on va essayer de redevenir un tout petit peu structuré, un tout petit peu plus sérieux que la moyenne de ce public.
Il y a
public.
Du boulot.
Il y a du traf hein, quand même, franchement. Je te citais tout à l'heure...
Il y a Zikazik qui est en train de se barrer en live.
On ne contrôle plus rien dans ce studio. Eric, je te parlais de Charlie Musselwhite, je te parlais de Johnny Winter, bien sûr, de